Radio Vatican, France et Afrique.
Bienvenue à mes auditeurs et merci d'être à l'écoute de Radio Vatican. L'actualité de l'Église est marquée aujourd'hui par le message et vidéo du pape aux jeunes de Néa, au nord-est de l'Argentine, à l'occasion de leur 40e pèlerinage, mais aussi par l'intervention lundi du cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin à la réunion virtuelle pour la commémoration du 75e anniversaire des Nations Unies. Nous parlerons aussi de Caritas Afrique, du Bénin, du Gabon, de la République démocratique du Congo. Concernant l'actualité sociopolitique africaine, nous verrons entre autres ce qui se passe au Mali, au Cameroun, au Mozambique. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, Français Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
Le pape a envoyé le samedi 19 septembre dernier un message et vidéo aux jeunes de Néa au nord-est de l'Argentine à l'occasion de leur 40e pèlerinage organisé cette année de manière virtuelle en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Soyez de jeunes vivants, ayez des idéaux qui changent le monde, ne restez pas immobiles et ne soyez pas comme des statues. Tel est l'encouragement adressé par le pape aux jeunes d'Argentine dans le message vidéo diffusé par l'archevêque de Corrientes, Mgr Andrés Stanovinski. Ce pèlerinage se fait d'une manière inédite, a souligné l'évêque de Rome, faisant remarquer que même s'il était virtuel, l'important était de ne jamais oublier que la vie est un voyage. Malgré les difficultés et les erreurs que chacun peut rencontrer au cours de route, il faut toujours essayer de se relever, de se remettre sur les rails, car si l'on reste immobile, l'on risque de devenir une statue comme la femme de Lot. Le Saint-Père a en fait donné sa bénédiction aux jeunes, leur rappelant que la Vierge Marie sait ce qui se passe dans chacun de cœur de jeûne, car elle est mère et prend soin de vous. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin est intervenu le lundi 21 septembre dernier à la réunion virtuelle pour la commémoration du 75e anniversaire des Nations Unies, réitérant le soutien du Saint-Siège à cette institution. Dans son intervention, le cardinal secrétaire d'État a souligné qu'au cours des 75 dernières années, les peuples du monde entier se sont tournés vers l'ONU comme source d'espoir pour la paix mondiale et l'harmonie entre les États. Pour le cardinal Parolin, il y a tout de même des défis et des revers, voire des contradictions et des échecs. L'Organisation des Nations Unies n'est pas parfaite et n'a toujours pas été à la hauteur de son nom et de ses idéaux, et elle s'est faite du mal chaque fois que des intérêts particuliers ont triomphé du bien commun. Elle aura toujours besoin de revitaliser l'esprit originel afin de s'approprier les principes et le but de la charte dans le contexte d'un monde en mutation, a conclu le cardinal secrétaire d'État. Il a été rendu public mardi la lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi Samaritanus Bonus sur la prise en charge des personnes dans les phases critiques et terminales de la vie, approuvée par le pape en juin dernier. Samaritanus Bonus réitère la condamnation de toutes les formes d'euthanasie et de suicide assisté et apporte un soutien aux familles et aux travailleurs de la santé. Incurable n'est jamais synonyme d'inextinguible. Toute personne souffrant d'une maladie terminale ainsi que toute personne née dans une prédiction de survie limitée ont le droit d'être accueillie, soignée, entourée d'affection. L'Église, affirme la dite lettre, s'oppose à l'excès thérapeutique, mais réitère comme enseignement définitif que l'euthanasie est un crime contre la vie humaine et que toute coopération formelle ou matérielle à un tel acte est un tel péché grave qu'aucune autorité ne peut légitimement imposer ou permettre. L'objectif de la lettre est de fournir des indications concrètes pour actualiser le message du bon samaritain. Même lorsque la guérison est impossible ou improbable, l'accompagnement médical et infirmier, psychologique et spirituel est un devoir incontournable, car le contraire constituerait un abandon inhumain de la personne malade. Les responsables de Caritas Afrique et Caritas Europe ont, à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre, encouragé les dirigeants de deux continents à adopter un nouveau cadre pour les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine qui soit centré sur les personnes plutôt que sur les États. Placer les personnes au cœur des efforts de paix et de sécurité impliquerait d'aller au-delà d'une approche centrée sur l'État, de reconnaître les capacités des personnes et de formuler des stratégies ambitieuses pour l'inclusion dans la construction de la paix et de la résilience, déclarent les responsables de Caritas Afrique et Caritas Europe dans leur déclaration collective. Créée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale de la paix est célébrée chaque année le 21 septembre comme une journée consacrée au renforcement des idéaux de paix par l'observation des 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. L'actualité de l'Église nous conduit au Gabon pour parler de la paroisse des rois mages d'Akébé dans l'archidiocèse de Libreville. Vandalisée et profanée le samedi 12 septembre dernier, les chrétiens de cette paroisse avaient assisté impuissants au vol du Saint-Sacrement par un homme jusqu'alors non identifié. C'est le mardi 15 septembre que le jeune homme qui a profané l'église paroissiale est retourné déposer l'ostensoire et la lunelle contenant le corps du Christ. L'information a été confirmée par le curé de cette paroisse, le père Benoît Diem, spiritain. Jésus dans les Saint-Sacrements est revenu et déposé dans mon bureau, a déclaré le père Diem, indiquant que le jeune homme est revenu demander pardon à Notre-Dame des Douleurs, en référence du mémorial de la Vierge que l'Église universelle célébrait mardi 15 septembre. Retrouvons notre correspondant au Bénin pour parler de la restitution des résultats des activités du sous-projet de Caritas Bénin contre la pandémie du nouveau coronavirus.
3 mois après sa mise en œuvre par Caritas Bénin, la direction nationale de Caritas Bénin a procédé le mardi 15 septembre 2020 au centre pastoral de Wando à Porto Novo au Bénin à la restitution des résultats des activités du sous-projet de Caritas Bénin pour la riposte contre le coronavirus. C'était sous la présidence du directeur national de Caritas Bénin, le père Philippe Sampoukoua.
Le rendez-vous d'aujourd'hui est pour Caritas Bénin une véritable opportunité d'échange, de partage d'expériences et du respect du principe de redevabilité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes que vous êtes sur une initiative de Caritas Internationaliste et du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Caritas Bénin a obtenu un financement pour assister ponctuellement quelques ménages affectés au sein de l'ex-cordon sanitaire mis en place par le gouvernement pour freiner cette pandémie de COVID-19.
Au terme de sa présentation des résultats obtenus, suivi d'une séance de questions-réponses et de divers témoignages des participants, le chef du sous-projet COVID-19 à la Caritas Bénin, M. François-Marie Divo, a pu déclarer:
un virus qui ne connaît pas de frontières ou de distinctions culturelles et politiques doit être affronté avec un amour sans barrières, frontières ou distinctions.
Et c'est au nom de la conférence épiscopale du Bénin que le père Sampoukoua a clos les travaux du mini-atelier.
Nous allons continuer la riposte au COVID-19 autrement et dans d'autres secteurs.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Concluons l'actualité de l'Église par la République démocratique du Congo pour faire écho de la profession religieuse chez les sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Bukungu Ikela. Reportage.
Les sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus du diocèse de Bukungu Ikela dans la province de la Chuapa ont élu une nouvelle supérieure générale, dite supérieure déléguée, la sœur Pascaline Mboyo. C'était à l'issue du chapitre général, dit chapitre redu, tenu à Bukungu du 16 au 19 septembre. Le dimanche 20 septembre, au cours de la messe présidée dans la cathédrale Marie-Reine d'Afrique de Bukungu par Mgr Toussaint Iluku, évêque de Bukungu Ikela, la nouvelle supérieure a reçu la profession de vœux perpétuels des sœurs Bérénice Lokwa, Germaine Dikaka et Clarisse Essengue. Sœur Pascaline Mboyo a également reçu les premiers vœux des novices Renate Bekanga, Catherine Bolumbu, Virginie Ekila et Stéphanie Bofete. Dans cette Eucharistie du 20 septembre, Clémentine Egblolo a rendu grâce aux Seigneur pour ses 25 ans de vie consacrée. Elle a prononcé ses premiers vœux en 1995, 12 ans après la fondation de la congrégation diocésaine par l'évêque d'alors, feu Monseigneur Joseph Kumondala, devenu plus tard archevêque de Mbandaka Bikoro. L'évêque de Bokungu Ikela, Monseigneur Toussaint Iloukou, a félicité toutes les religieuses qui s'engageaient et il a demandé à l'Assemblée de les soutenir par la prière et toute forme d'aide et de conseil afin que l'engagement dans les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance ne soit pas un jour démenti par le souci des affaires du monde. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le chef de l'agent au pouvoir au Mali, le colonel Assimi Goïta, a appelé mardi la communauté économique des États d'Afrique et de l'Ouest, CEDEAO, de lever les sanctions imposées à son pays, invoquant la désignation lundi de l'ex-ministre de la Défense, le colonel-major à la retraite, Ba Ndaw, comme président de la transition, dont la cérémonie de prestation de serment aura lieu le vendredi 25 septembre prochain. Nous avons accepté les principes de la CEDEAO, à savoir la nomination d'un président civil, puis la désignation d'un premier ministre. Je pense que les jours à venir, la CEDEAO doit enlever ses sanctions pour le bonheur de la population malienne, a indiqué le colonel Goïta en marge des cérémonies du 500e anniversaire de l'indépendance du Mali. Par ailleurs, le colonel Goïta a appelé mardi ses compatriotes à soutenir les forces étrangères et partenaires présentes dans son pays, citant notamment la force française Barkhane et les casques bleus de la MINUSMA. Il a également appelé à l'union sacrée autour du Mali et à soutenir les forces nationales. Dans un discours télévisé à la veille de la fête nationale, le chef de la junte au pouvoir au Mali a promis de gagner la guerre pour la sécurité dans tout le pays en proie aux attaques djihadistes. Le Programme alimentaire mondial, PAM, s'est inquiété mardi des attaques croissantes des groupes armés djihadistes dans le nord du Mozambique qui aggravent la menace de la faim pour quelques 300 000 déplacés de plus en plus dépendants de l'aide humanitaire mais aussi plus difficiles à atteindre. Cette agence onusienne s'est dit très préoccupée par l'intensification du conflit et de la détérioration de la sécurité alimentaire dans la province de Cabo Delgado où plus de 300 000 personnes ont fui leurs maisons et leurs villages, abandonnant leurs récoltes et les rendant complètement dépendants de l'aide humanitaire. La police a commencé à disperser mardi à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau une manifestation de plusieurs centaines de personnes à Douala, la capitale économique du Cameroun, rassemblée à l'appel de l'opposition. Plusieurs partis, dont celui de Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya, ont participé à ces manifestations. M. Kamto encourageait les Camerounais à manifester pour réclamer un cessez-le-feu et des négociations dans l'Ouest anglophone où s'affrontent dans une guerre sanglante depuis 3 ans l'armée et des groupes séparatistes et une réforme du système électoral. Et en France, une cinquantaine d'opposants au président camerounais ont manifesté mardi à Paris devant l'ambassade de leur pays et ont été repoussés par des policiers après des jets de projectiles. À la mi-journée, ces partisans de Maurice Kamto étaient tenus à distance par le cordon policier, mais bloquaient la circulation dans le quartier parisien du 16e arrondissement. Toujours à propos du Cameroun, 4 militaires camerounais ont été condamnés à 10 ans de prison ferme lundi et un autre à 2 ans pour l'assassinat en 2015 de 2 femmes et de leurs 2 enfants exécutés à bout portant dans le nord du pays. Le gouvernement avait nié l'implication de son armée dans un premier temps avant de faire arrêter 7 suspects. Indignée par ce verdict, Maximilienne Ngombe, directrice du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, a soutenu que ces 10 ans de prison ne sont pas seulement faibles, mais plus insignifiants, avant d'ajouter que ceux qui écopent de 10 ans ne sont pas effectivement ceux qui ont commandité ces assassinats.
Radio Vatican, Français Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
Le journaliste marocain et militant des droits humains Omar Radi, en détention préventive depuis fin juillet, a été interrogé pour la première fois par un juge d'instruction mardi à Casablanca dans une double affaire de viol et d'espionnage qui mobilise médias et ONG, arrêté fin juillet et emprisonné depuis pour financement étranger, atteinte à la sécurité intérieure de l'État et viol. Le journaliste de 34 ans a comparu à huis clos devant un juge d'instruction de la chambre criminelle et de la cour d'appel de Casablanca. L'état-major burkinabé a annoncé lundi qu'au moins 26 terroristes avaient été neutralisés lors de deux opérations militaires menées les 11 et 13 septembre dernier dans le nord du Burkina Faso. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015. Le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Imni Chambas, qui a débuté lundi une émission d'une semaine en Côte d'Ivoire, a appelé à la retenue tous les acteurs de la présidentielle du 31 octobre prochain. Les Nations Unies invitent tous les acteurs à la retenue à éviter les violences et recourir au discours de haine. Nous exhortons les acteurs politiques ivoiriens à la concertation, a dit M. Chambas à l'issue d'une audience avec le président ivoirien Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat controversé. Ma visite s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des Nations Unies pour l'organisation d'une élection présidentielle pacifique, inclusive, transparente et crédible, a annoncé M. Chambas. La garde nationale maritime tunisienne a fait échouer 19 tentatives d'émigration clandestine dans la seule nuit de samedi à dimanche, interceptant 246 migrants, pour la plupart tunisiens, a indiqué lundi le ministère tunisien de l'Intérieur. Les embarcations détectées par les gardes-côtes transportaient 217 Tunisiens et 29 étrangers qui avaient pris la mer vers l'Europe à partir de plusieurs points sur la côte tunisienne. Parmi ces personnes, 3 sont recherchés et poursuivis par la justice, a ajouté le ministère tunisien de l'Intérieur.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Économie, c'est le magazine du jour avec Marie-Josée Moando Boisboilo.
Notre magazine sur l'économie concerne le télétravail en ce temps de crise sanitaire liée à la COVID-19. Le télétravail s'inscrit dans une démarche d'amélioration de l'organisation du travail et s'appuie sur les technologies numériques. Il s'agit d'un travail effectué hors des locaux de l'employeur de façon régulière et volontaire. Appels, messages, notifications, les sollicitations numériques étaient déjà omniprésentes. Elles ont encore bondi avec la généralisation du télétravail. La propagation du coronavirus a porté à un tournant dans l'organisation du travail. Les gens vont au bureau 2 ou 3 jours par semaine et utilisent leurs locaux d'une manière différente. Des grandes entreprises comme les banques sont peu pressées de renvoyer la majorité de leurs salariés dans les bureaux et elles sont nombreuses à réévaluer leur organisation du travail et pourraient opter à long terme pour ce qui leur permettrait de réduire leurs frais immobiliers, notamment dans les centres des grandes métropoles. Chez Google, par exemple, l'outil gratuit Bien-être numérique enregistre une forte augmentation du nombre d'utilisateurs actifs depuis le début de la crise. On a vu apparaître la monétisation du temps de concentration à partir du moment où s'est installée dans le grand public l'idée que les grands opérateurs numériques voulaient du temps d'attention et que ça menait à des formes d'abrutissement par l'écran. En parallèle, le télétravail met au défi l'autocontrôle, autrement dit, ce qui nous permet de différer certaines choses pour mieux se concentrer sur une tâche. Des employés des secteurs publics et privés travaillent de chez eux partout où c'est possible. Les arrivées et les départs du lieu de travail doivent se faire progressivement en 4 vagues, si possible. Une des mesures pour freiner la propagation du coronavirus. Il ne s'agit pas d'un aménagement du temps de travail, mais d'une modalité d'organisation du travail. L'exercice du télétravail n'a en effet aucune incidence sur le décompte du temps de travail effectif, À défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail. Le salarié exerce en effet normalement son activité professionnelle et peut être habituellement joint par son employeur durant des plages horaires fixées par l'employeur en concertation avec lui. L'application taïwanaise Forest Caracol ainsi en tête des ventes des applications payantes sur l'Apple Store avec plus de 40 millions de téléchargements dans le monde. Elle utilise le principe de gamification, soit se servir de mécanismes de jeu pour engager et motiver numériquement les utilisateurs. Forest a vu une augmentation du nombre de téléchargements estimé à 3 millions attribuables à la crise de COVID-19. Focus Keeper, une application coréenne qui se base sur la technique de gestion du temps Pomodoro, des cycles de 4 périodes de travail de 25 minutes et 5 minutes de pause, constate également les effets de la crise sanitaire. Ces applications reposent généralement sur un modèle économique dit « freemium », leurs versions de base sont téléchargeables gratuitement, mais les utilisateurs doivent payer pour plus de fonctionnalités, ce à quoi nous ne pouvons pas ne pas faire attention pour expliquer le fonctionnement des notifications et autres alertes numériques.
Nous laissons le micro à Armela Mouimoundou pour la rubrique consacrée à l'œcuménisme et dialogue interreligieux.
Commençons notre rubrique consacrée à l'écuménisme et au dialogue interreligieux par la Malaisie, où la prière unit les croyants de différentes religions présents en ce pays et fait grandir l'esprit de coexistence et d'unité nationale. Dans ce cadre, différentes communautés religieuses de l'État malaisien de Sarawak ont organisé des rencontres de prière auxquelles ont participé des croyants de diverses fois afin de célébrer la 57e journée de la Malaisie le 16 septembre dernier, laquelle marque l'institution de la Fédération de Malaisie en 1963. La plateforme dénommée Union pour les religions à Sarawak a mené une campagne de préparation marquée par la prière interreligieuse ayant pour but de travailler ensemble en faveur du développement, de la paix et de la solidarité. Chaque jour du 31 août au 15 septembre, chacun à son tour dans divers lieux de culte de Cebu, églises, temples protestants, méthodistes et anglicans, mais aussi sikhs, bahaï, hindous, bouddhistes et mosquées dans le respect des normes de lutte contre le COVID-19, ont organisé des événements, assemblées, rencontres de commémoration. Il s'agit d'une initiative unique en son genre et organisée pour la première fois. Les prières et rencontres qui ont rassemblé les croyants concernaient des thèmes comme l'importance de la constitution malaisienne, le respect pour la dignité de la vie, les bénédictions reçues dans l'histoire de la nation. La Conférence épiscopale du Malawi et d'autres organismes religieux dont le Conseil des Églises du Malawi, l'Association évangélique du Malawi, l'Association musulmane du Malawi et l'Association musulmane Quadria du Malawi ont exprimé leurs préoccupations concernant la proposition de la Commission parlementaire de la santé réclamant une modification de la loi sur l'avortement. Selon les organismes religieux du Malawi, la proposition d'amendement de la loi sur l'avortement est immorale et pécamineuse dans la mesure où elle est contraire au commandement de Dieu concernant la sacralité de la vie. Une déclaration publiée le 14 septembre dernier et signée par la conférence épiscopale et par d'autres responsables religieux critique la proposition de légalisation de l'avortement en affirmant qu'aucune institution, même le Parlement, les tribunaux et le bras exécutif du gouvernement n'a pour mandat de mettre fin à la vie, sauf Dieu. La vie humaine constitue une valeur fondamentale parce que Dieu l'a créée. La foi islamique croit par ailleurs qu'Allah a créé l'humanité pour un but, affirme la déclaration. Les organismes religieux du pays, citant le livre du prophète Jérémie, ont appelé leurs concitoyens à considérer la vie comme sacrée, à la protéger et à la préserver avec un soin extrême depuis sa conception, les exhortant à continuer à sauvegarder la vie des enfants, y compris des enfants à naître, comme cela est établi dans la section 13, 22, 33 de la Constitution républicaine. Les responsables religieux ont par la suite fait appel au peuple du Malawi Malawi afin qu'il demande aux membres du Parlement de ne pas approuver le projet de loi qualifié de génocidaire pour les enfants à naître. C'est la seconde fois que l'amendement controversé à la loi sur l'avortement est proposé par des organisations de la société civile. Les dites organisations ont demandé à ce que l'avortement soit un choix pour les femmes, affirmant que la majeure partie d'entre elles meurt à cause d'avortements illégaux dangereux. La loi sur l'avortement au Malawi prévoit exceptionnellement l'avortement lorsque la vie de la mère est en danger et interdit de procurer un avortement volontaire aux femmes et jeunes filles. La justice fiscale qui inclut la réforme des systèmes fiscaux actuels, l'avènement du jubilé et le paiement de réparations était au centre du deuxième webinaire public de l'École œcuménique de gouvernance, d'économie et de gestion 2020 qui s'est tenu le 14 septembre dernier. La campagne fiscale Zaké a été présentée aux étudiants et aux invités. Cette campagne appelle à une transformation du système économique mondial qui, comme Zaké, rendrait au moins une partie de l'argent dû par les multinationales et les personnes extrêmement riches, a déclaré Justin Tucker, directeur de Church Action for Justice. Suzanne Matale, commissaire de la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises, a déclaré « L'histoire de Zaké révèle la délinquance du système fiscal mondial dans sa forme actuelle. Il est oppressif et coupable. Le monde doit écouter cette histoire, non seulement parce que c'est une histoire chrétienne, mais aussi parce qu'elle dit clairement la vérité au pouvoir. » De son côté, Ivan Karatas, abordant le rôle des églises dans la campagne Zaktax, a déclaré qu'il est important l'engagement de chacun et conclure une alliance pour lutter avec la vérité. Il faut également un leadership prophétique, du courage pour dire la vérité et aider les gens à comprendre que leur propre sens de l'humanité serait servi par leur volonté de s'engager dans ce travail difficile.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme. Aujourd'hui, au nom de toute l'équipe du service français Afrique et de Radio Vatican, Jean-Pierre Bojoko vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Le rendez-vous, c'est pour demain. Même heure, même fréquence, même radio.
Nitakushukuru nitawainua wote, wakusifu wewe, nitawaongoza vyema, waimbe kwa furaha. Nitakushukuru nitawainua wote, wakusifu wewe, ukarimu wako.